La dégénérescence maculaire est malheureusement la cause de plus de la moitié des cas de déficience visuelle pour les personnes de 50 ans et plus. Alors, c'est vraiment un ennemi redoutable. Et pour nous en parler et savoir qu'est-ce qu'on peut faire, j'ai avec moi M. André Lavoie, qui est directeur général de l'Association québécoise de la dégénérescence maculaire. Bonjour, M. Lavoie.
Oui, bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
Bien, ça nous fait plaisir de vous avoir, certainement. On va parler de la dégénérescence. Quand on dit DMLA, c'est quoi LA?
Âge. Alors, en langage médical, DMLA, c'est dégénérescence maculaire liée à l'âge.
Liée à l'âge, parce que s'il y a une prévalence chez les personnes de 50 ans et plus.
Exactement. Après 50 ans, la dégénérescence maculaire est la principale cause d'une perte de vision.
Et il y a différents types de dégénérescence maculaire. En fait, il y a comme le type le plus répandu à la population, qui est la dégénérescence maculaire dite sèche.
Oui.
Et il y a l'autre qu'on appelle mouillée ou liquide. Oui.
Oui. Alors, oui, donc, tout le monde commence, en fait, tout le monde. Ça commence d'abord par une forme sèche.
D'accord.
Mais il faut bien spécifier qu'il y a seulement 10% des personnes qui peuvent passer à une forme humide qui est beaucoup plus sévère.
D'accord.
La forme sèche, par exemple, peut prendre plusieurs années. Mais il reste quand même que quand on parle de dégénérescence maculaire, on parle de la vision centrale, c'est-à-dire de la vision fine.
Mm-hmm.
Ce qui nous permet donc d'écrire, de lire, de regarder la télé, voir les personnages. Bien sûr, on ne devient pas complètement aveugle, on gardera toujours la vision périphérique. La vision périphérique étant, par exemple, si je regarde le téléviseur et je vois les personnages, ben, je peux voir autour de moi. Ça, c'est la vision périphérique.
Exact.
On ne la perdra pas. Mais il reste quand même que la perte de la vision centrale est un handicap important.
C'est majeur, oui.
Ça s'accompagne de plusieurs deuils. Hein. Celui, je pense, qui effraie le plus pour beaucoup de personnes, qui touche le plus, c'est la perte du permis de conduire.
Ah oui, j'en sais quelque chose. J'ai arrêté de conduire le 9 septembre 1986.
Oui. Alors, c'est sûr que dans les grandes villes, il y a quand même beaucoup de services. Mais imaginez quelqu'un qui est diagnostiqué d'une dégénérescence maculaire qui vit en campagne.
Oui.
Qui est assez isolé et maintenant ne peut plus se rendre à la pharmacie, à la clinique, donc perdre son permis de conduire, ça implique énormément de choses.
Est-ce que ça peut se dépister et se traiter avant que ça ne déboule?
Oui, en fait, on peut, avec une photo du fond de l'œil, la majorité des optométristes aujourd'hui peuvent faire une photo du fond de l'œil. Et on peut voir, effectivement, parce que ça concerne la rétine. La rétine, c'est le laboratoire de l'œil derrière l'œil. C'est ce qui analyse, autrement dit, l'image et qui l'envoie au cerveau. On est capable, avec une photo du fond de l'œil, de voir s'il y a des dépôts. Parce qu'il reste quand même que la dégénérescence maculaire, on peut faire un parallèle important avec les problèmes cardiaques.
D'accord.
La rétine, donc, fonctionne avec un apport sanguin. Et s'il y a des produits toxiques, donc du cholestérol, des lipides qui s'accumulent au niveau des vaisseaux sanguins qui portent le sang à la rétine, à ce moment-là, il y a donc des vaisseaux sanguins qui s'obstruent et qui, un peu comme pour le cœur, vont provoquer des problèmes.
D'accord. Mais on parle de micro-vaisseaux sanguins, c'est tout petit, alors ça ne prend pas grand-chose pour les obstruer.
Oui. Au début, une photo du fond de l'œil peut nous montrer peut-être un ou deux dépôts qu'on appelle tâches ou en langage médical des drusènes. Et passer un certain nombre de ces dépôts, donc de corps gras qui s'agglutinent au niveau de la rétine et qui viennent, autrement dit, boucher, obstruer des vaisseaux sanguins. Après 5 ou 6, alors là, on peut dire qu'il y a un début de dégénérescence maculaire. Ce qui veut dire que dès qu'on peut avoir un ou deux drusènes, il peut y avoir un avertissement. Et il faut absolument donc prévenir au même titre que les problèmes cardiaques.
Est-ce qu'à ce moment-là, il y a des facteurs aggravants comme l'alimentation, le style de vie, l'hérédité?
Tout à fait. D'abord, le facteur héréditaire est extrêmement important parce qu'avec un facteur héréditaire, on est déjà 3 fois plus à risque au début.
D'accord.
Le facteur héréditaire vient amplifier tous les autres facteurs de risque. Alors, imaginez si quelqu'un fume ou a fumé, la cigarette est déjà 6 fois plus de risque.
D'accord.
Alors, ça devient exponentiel. Alors ensuite, on arrive au niveau de l'alimentation. Comme pour le cœur, tous les corps gras, donc tout ce qui est cholestérol et hypertension, amène des problèmes cardiaques et amène aussi des problèmes au niveau de la rétine. L'autre facteur de risque, on pourrait dire, on va mettre ça ensemble, les yeux pâles et le soleil.
Ah.
Donc, effectivement, les ultraviolets, mm-hmm. avec les yeux plus pâles, c'est extrêmement dommageable au niveau des yeux.
Quelqu'un qui a les yeux bleus et qui ne porte pas de verre fumé, hein? C'est
oui,
ça?
Oui. Okay. Les yeux pâles, d'ailleurs, vous savez, les peuples africains et nord et sud-américains ont très peu de dégénérescence maculaire.
D'accord.
Parce qu'ils ont, avec les yeux plus foncés, il y a mm-hmm. plus de pigments protecteurs mm-hmm. au niveau des yeux, de la rétine.
C'est une maladie nordique.
Et bien, en même temps, l'hémisphère nord est beaucoup plus bombardé d'ultraviolets que mm-hmm. l'hémisphère sud.
Oui, c'est vrai. Aussi.
Alors, et ajoutez à ça le fait qu'en hiver, lorsqu'il y a de la neige et tout, et c'est ensoleillé, on a une intensité lumineuse absolument dommageable.
Mm-hmm.
Et les ultraviolets rebondissent sur la neige, tout ce qui est glacé. Alors, imaginez, il faut absolument, ça prend une campagne pour dire aux gens, écoutez, vous devez porter des verres fumés.
Et de bonne qualité, attention. Parce que pas les verres fumés qu'on achète à côté du tiroir caisse, là, à 5 $, puis qui vont font faire que notre pupille va s'ouvrir, mais elle va être simplement plus bombardée, là.
Exactement. Un verre fumé qui n'est pas donc certifié contre les ultraviolets est pire que de ne pas emporter.
Mmh.
Il faut donc des verres fumés qui sont certifiés contre les ultraviolets. Ça, c'est important. Et même porter une casquette. C'est important, veut dire, je pense que tout le monde a déjà vécu, surtout jeune, quand on jouait dehors l'hiver, au soleil, on rentrait dans la maison.
Ah, puis il fait tout noir, oui.
Pourquoi? Ben parce qu'effectivement, les cellules de la rétine sont imbibées de lumière et donc mmh. ne peuvent plus travailler. Et en même temps qu'ils s'imbibent de lumière comme ça, ils sont attaqués par cette lumière-là.
D'accord.
Savez-vous comment on donne la dégénérescence maculaire aux souris pour participer à des expériences sur la dégénérescence maculaire? Par l'intensité lumineuse et les ultraviolets.
Mm-hmm. D'accord. Donc, on provoque la dégénérescence maculaire chez elles. Oui, je comprends.
Oui.
En posant les mauvais gestes que certains d'entre nous pourraient éviter. Mais oui. Une fois qu'on a dépisté, une fois qu'on a été faire examiner nos yeux, qu'il y a eu une photo du fond de l'œil, puis qu'on constate ou on se fait dire qu'on commence à avoir des dépôts, puis on a un début de dégénérescence maculaire sèche, si on ne veut pas que ça déboule en la forme humide qui va nous priver de la vision, est-ce qu'il y a quelque chose à ce moment-là qu'on peut faire pour freiner le développement?
Oui. Malheureusement, beaucoup dans le corps médical, les gens vont se faire dire un diagnostic. Ben, c'est une dégénérescence maculaire, il n'y a rien à faire, vous reviendrez dans un an. Ça, c'est très dangereux.
Okay.
D'abord, parce que s'ils reviennent dans un an, entre le moment de cette prochaine rencontre avec un spécialiste, le patient peut passer, la forme humide, qui est sévère,
mm-hmm.
et qui est une perte en 5-6 minutes. Des fois, c'est très, très court. Et donc, ça, c'est problématique. Alors, ce qui est important, c'est que c'est faux de dire qu'il n'y a rien à faire pour la forme sèche. On doit se prendre en main. On doit changer l'alimentation.
Mm-hmm.
On doit donc modifier son régime alimentaire pour couper absolument tout ce qui est cholestérol.
Un peu comme si on venait de se faire dire par notre médecin qu'on a un risque cardiaque parce qu'on a trop de cholestérol. C'est la même vérité qui s'applique.
Oui. Un cardiologue va dire, écoutez, vous devez surveiller votre régime alimentaire, changer votre régime alimentaire et faire de l'exercice.
Oui, on dira, le cardiologue ne dira pas, continuez de manger de la même façon puis revenez-nous dans un an. Il ne fera pas ça, lui.
Non. En même temps, il y a très peu d'informations qui est données
mm-hmm.
et on ne dira pas à une personne, vous devez changer votre alimentation et tout. Non. On leur dit souvent, ben, il y a des vitamines pour les yeux, prenez des vitamines. Les vitamines pour les yeux, ça peut donner un faux sentiment de sécurité.
Mm-hmm.
Ça ne donnera rien de prendre des vitamines si on ne change pas son alimentation. Si, par exemple, on continue à fumer, ne faites que dépenser de l'argent pour rien.
Oui.
Alors, il faut, oui, prendre certaines vitamines, mais il faut d'abord changer son alimentation, éviter les corps gras, éviter le sucre.
Mm-hmm.
Le sucre vient, autrement dit, modifier la chimie de notre organisme digestif, de nos organes digestifs, et faire en sorte que les bons nutriments dont se nourrissent les rétines, ces nutriments sont éliminés par le sucre. de sur la tendance, autrement dit, est-ce qu'on ingère davantage de gras?
Ce qu'on fait bien d'une main, le sucre le défait de l'autre.
Exactement. Le sucre, en soi, c'est pas gras. Mais le sucre, il vient modifier donc la façon qu'on métabolise les nutriments et nous prive de nutriments essentiels, entre autres, pour la vision et pour d'autres organes aussi du corps.
Alors, une bonne alimentation est aussi, sinon plus important que de prendre des suppléments de vitamines. Quand on parle de vitamines, desquelles parle-t-on? De la vitamine E, la vitamine A?
Non, c'est un complexe antioxydant. Mm-hmm. On parle de deux grandes compagnies. Je ne ferai pas de publicité nécessairement.
D'accord. Mais ça se trouve sur Internet, je suis sûr. Mais il ne faut donc pas penser qu'on prend un complexe vitaminique particulier et que grâce à ça, on n'a pas besoin d'arrêter de fumer, on n'a pas besoin de changer notre alimentation, que le tour est joué. Comme vous dites, il faut éviter de tomber dans le piège de la potion magique là, qui va nous sauver.
Exactement, ça peut donner un faux sentiment de sécurité. Mm-hmm. Et finalement, les gens, ensuite, ils vont dire ben, ça ne donne rien les vitamines.
Bon,
il y a des gens là qui nous appellent, mon médecin m'a dit que ça ne donne rien les vitamines.
Ah, voilà.
Alors, je questionne la personne et une anecdote entre autres.
Ah, mais je m'excuse, M. Lavoie, vous allez la garder pour la prochaine fois, cette anecdote, car c'est tout le temps dont nous disposons. Je vous remercie, M. André Lavoie, directeur général de l'Association québécoise de la dégénérescence maculaire.